242 policiers et militaires. Et c'est important de rappeler cette date parce que c'est précisément à l'époque, parce que le gouvernement n'avait fait aucun geste en échange, que les FARC avaient décidé, avaient annoncé, que puisque ils allaient séquestrer des membres de la classe politique, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé, hein, alors on peut évidemment, on doit condamner cette séquestration de civils, mais les FARC avaient annoncé que c'était une mesure politique, qu'ils séquestreraient des membres de la classe politique, jugés aussi scandaleusement indifférents au drame de la guerre vécu par le peuple, qu'au sort des soldats combattants dans les rangs de l'armée. Bon, donc c'était une décision qui a été mûrement réfléchie. Quel est le débat au-delà, évidemment, du plaisir qu'on peut avoir à avoir des gens retrouver leur liberté? C'est que les FARC ont été placés, après le 11 septembre 2001, sur la liste des organisations terroristes. C'est une classification que les FARC ont toujours refusée. Et indépendamment du fait qu'on doit effectivement ou qu'on peut condamner leur méthode, il est vrai que les FARC, de mon point de vue en tout cas, et là je n'engage que moi en disant ça, ne sont pas un groupe terroriste. C'est un mouvement d'opposition armée aux méthodes extrêmement contestables. Or, en plaçant cette organisation armée au sein des organisations terroristes, évidemment, on a instauré un blocage aux discussions et aux négociations possibles. Et pour la première fois avec le président Chavez, les FARC ont retrouvé un interlocuteur. Moyennant quoi, ça se solde par un résultat extrêmement positif. Évidemment, pour le gouvernement colombien, ça a une conséquence, c'est que s'asseoir en face des FARC, c'est effectivement reconnaître qu'elles ne sont pas terroristes, mais que ce sont des belligérants. Tout l'enjeu, il est là. Il faut bien comprendre que tout l'enjeu est là. C'est un enjeu politique. La question qui se pose, c'est est-ce que les FARC, d'une certaine manière, vont considérer que de cette manière, elles ont été reconnues comme belligérants? Après tout, c'est possible. Et est-ce que ça va assouplir leur position? Ou est-ce qu'elles vont se cantonner à dire notre interlocuteur ne peut être que le gouvernement colombien? Bon. Là, j'ai pas de réponse à cette question. Juste la chose qu'on sait et que tout le monde sait depuis longtemps, c'est que seule une négociation peut faire sortir cette situation tragique du stade où elle en est. Le président Chavez vient de proposer, ça évidemment ça va faire scandale, de sortir les FARC et l'armée de libération nationale de leur statut de terroriste. Je pense que c'est une demande intelligente, hein, parce que ce statut de terroriste a produit un effet cliquet. Une fois qu'on est terroriste, on peut plus revenir en arrière, on peut plus discuter. Bon. Et évidemment, une première négociation autour de l'affaire des otages pourrait également être un premier pas pour des négociations de paix en Colombie, parce qu'il n'y a pas de conflit qui ne se termine pas à la table des négociations. Ça sera en Colombie comme ailleurs, ça sera en Colombie comme en Amérique centrale. Il faut négocier, il faut discuter. Le problème, l'un des problèmes en tout cas, et le problème grave en ce moment, c'est que le président Álvaro Uribe, qui est en difficulté à l'intérieur de la Colombie, parce que lié aux paramilitaires, dans un scandale qu'on appelle le scandale de la parapolitique, où tout est en train de sortir, n'a pas du tout intérêt, ne veut pas négocier avec la guérilla, et a intérêt à maintenir cette situation de tension, y compris parce que la gauche démocratique est en train de monter en Colombie. Hein, c'est-à-dire que lors des dernières élections, des grandes villes comme Cali, Medellín, Bogota ont été gagnées par le pôle démocratique alternatif, et que donc le président Uribe, pour remobiliser ses partisans, doit maintenir un climat de confrontation. D'où sa réticence évidente à négocier un échange humanitaire.
Et lui aussi chercherait à faire accepter la possibilité de sa réélection.
Lui aussi. Alors pour le moment, ça n'inquiète personne. J'avoue que il y aurait une contradiction à la fois avoir fait preuve de beaucoup de mansuétude sur la possible réélection de Chavez et une possible réélection d'Uribe, puisqu'il faudrait là aussi modifier la Constitution. Je dirais simplement qu'on ne peut pas comparer Chavez et Uribe. Il faut le dire, c'est pas suffisamment dit, le président Álvaro Uribe est un président qui est lié à l'extrême droite. Le président Chavez est un président démocrate qui a un projet de gauche, et jusqu'à preuve du contraire, en tout cas chez nous, on ne confond pas l'extrême droite et la gauche.
Eduardo Galeano a inventé un mot, démocradura.
Démocrature.
Démocratie et dictature.
Pues a ver, aquí, en esta zona y en el país, hoy estamos en una consolidación de un proyecto de Estado paramilitar.
Ici, dans cette région, mais dans le pays, on est dans la consolidation d'un modèle paramilitaire.
La stratégie paramilitaire en Colombie est née pas pour attaquer une armée populaire, une guérilla, mais pour attaquer une manière de